film Star Wars s'en est directement inspiré. Beaucoup de ces planètes semblent dérivées de la planète Trantor du livre Fondation d'Asimov. Et en juillet, ce sera l'adaptation assez libre au cinéma d'un album par Luc Besson. C'est bien la bande dessinée de science-fiction Valérian, la série qui a 50 ans cette année. L'intégrale des 22 albums est rééditée chez Dargo. 50 ans, 22 albums, deux héros humains, Valérian et Laureline, mais aussi le voyage spatio-temporel et ce qui en découle, des dizaines de planètes différentes et bien sûr les races qui leur sont associées, Valérian, un véritable bestiaire intergalactique. Futuriste dans les années 60, considéré comme visionnaire aujourd'hui, en tout cas par un gars, qu'est-ce qu'un bestiaire intergalactique et une planétologie assez loufoque peut nous apprendre sur nous-mêmes et nos fonctionnements contemporains? C'est la question que pose Valérian, la méthode scientifique. Avec pour cette table ronde fiction du vendredi, trois invités, on les présente et on les salue. Jean-Claude Mézières, bonjour.
Bonjour.
Co-auteur de la série Valérian, c'est vous qui dessinez ces planètes et ces créatures dont on va parler. Christophe Killien, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes critique, spécialiste de bande dessinée, vous préparez un abécédaire de Valérian. Et Hervé Cotin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes astrochimiste, exobiologiste, comme on dit, professeur à l'université Paris-Est Créteil, chercheur au LISA. On vous retrouve tout de suite et je signale à nos auditeurs qu'on peut aussi suivre la méthode scientifique sur le compte Twitter @laméthodefc. Mais en attendant, et comme chaque vendredi, eh bien c'est l'actualité scientifique de la semaine. Antoine Beauchamp, bonjour.
Bonjour Xavier, bonjour à tous.
Le journal des sciences.
EV1, left glove, right glove, good. Object dry. Right, Luca.
Voilà, et avec l'image, c'est encore mieux. Il y a les nuages qui se reflètent sur les panneaux solaires. Vous venez d'entendre un échange entre Thomas Pesquet et Luca Palmitano, qui dirige les opérations depuis le sol. Pour commencer ce journal, Antoine, on ouvre donc la porte de la Station Spatiale Internationale, puisque Thomas Pesquet fait sa première sortie dans l'espace en ce moment même.
Et oui, Thomas Pesquet est le 4e spationaute français et le 11e européen à faire ce qu'on appelle une sortie extravéhiculaire, une EVA, dans l'espace. Il disait ne pas ressentir de stress particulier, mais plutôt de l'impatience avant ce marathon spatial qui a débuté vers 12h30 un peu en avance et qui devrait durer pas moins de 6 heures. Le spationaute français est accompagné dans cette sortie par l'américain Shane Kimbrough. Écoutez Jean-François Clairvoy, ancien spationaute de l'Agence spatiale européenne, qui nous explique les raisons de cette sortie.
L'objectif de la sortie de Thomas est essentiellement d'installer des plaques de protection, des emplacements qui vont être laissés vides par des batteries qui ne seront pas remplacées. Donc des robots sur plusieurs jours qui ont précédé le VA, donc cette semaine, ont travaillé à remplacer des batteries anciennes au nickel hydrogène, comme on dit, par des nouvelles batteries identiques à celles qu'on a dans le téléphone portable, mais plus grosses, lithium-ion. Mais une nouvelle batterie remplace deux anciennes batteries. Donc il va rester des emplacements vides, il faut les protéger, et ça c'est pas prévu de pouvoir être fait par les robots. Donc les astronautes vont essentiellement installer des plaques de protection sur ces emplacements. Voilà, c'est en gros des sorties dans l'espace destinées à l'entretien et l'amélioration de la station, puisque sa durée de vie est prolongée en 2024. Donc les batteries qui auraient pu tourner jusqu'à maintenant, qui étaient la durée de vie normale de la station, eh bien ça vaut le coup de les remplacer. Dans la station, tous les équipements vitaux au fonctionnement de la station, qu'on appelle ORU en anglais, ça veut dire unité pouvant être remplacée en orbite, c'est ça que ça veut dire, eh bien, tous sont remplaçables. Donc on peut très bien avoir en 2024 une station où tous les éléments vitaux seront en fait des éléments neufs. Il n'y a que la coque métallique en aluminium étanche dans laquelle évoluent les astronautes qui, elle, n'est pas remplaçable et n'a pas besoin d'être remplacée. Et qu'on protège d'ailleurs par des boucliers pour qu'elle puisse, dans la durée, être assez résistante face aux impacts de micrométéorites qui, statistiquement, sur une longue durée, peuvent finir par percuter la station.
Et lifting pour la station donc. Alors la sortie extravéhiculaire EVA est une prise de risque. Heureusement, les astronautes disposent d'une combinaison. Cependant, elle n'a pas beaucoup évolué ces 30 dernières années, Antoine.
Oui, Thomas Pesquet, il compare souvent ce scaphandre à une armure de chevalier. Cette armure, vous le disiez, n'a pas beaucoup évolué, mais elle a quand même connu quelques améliorations. Écoutez à nouveau Jean-François Clairvoy nous détailler ces modifications et comment Thomas Pesquet s'est entraîné à piloter ce vaisseau spatial à taille réduite qu'est le scaphandre.
Les sorties dans l'espace sont toujours considérées comme augmentant le risque auxquelles s'expose l'astronaute. C'est pour ça qu'on minimise la réalisation de ces sorties. On fait le travail par des robots qui sont à l'extérieur tant que c'est possible. Mais c'est bien maîtrisé depuis longtemps, puisque le scaphandre que va utiliser Thomas Pesquet, c'est le même fondamentalement que celui qui a été utilisé lors des premières sorties en navette spatiale il y a plus de 35 ans. Les seules trois nouveautés en 35 ans de ce scaphandre, c'est qu'on a rajouté des petits chaufferettes électriques dans les gants pour éviter des engelures lorsque le VA dure trop longtemps dans l'ombre et dans le noir, où les objets qu'on touche peuvent être à moins 150 degrés. On a rajouté trois caméras appareils photo dans le casque qui nous permettent en temps réel au sol de voir ce que voit l'astronaute dehors. On voit ses mains qui travaillent comme si c'était nous. Et puis on a surtout rajouté sur le scaphandre un mini-scooter intégré qui permet à l'astronaute, en cas de dérive, de revenir tout seul vers la station parce qu'elle n'est pas assez manœuvrante pour rattraper un astronaute en dérive au cas où son câble de sécurité se rompt. C'est une opération risquée et pour l'entraînement, il y a deux activités fondamentales. S'entraîner à connaître le scaphandre, ça se fait dans des chambres à vide dans lesquelles on recrée le même vide que dans l'espace, les mêmes conditions thermiques de moins 150 à plus 150 degrés que dans l'espace. Maintenant, pour les tâches à effectuer avec le scaphandre, on s'entraîne en piscine, en étant dans un scaphandre similaire, et pendant 6 heures d'affilée, on répète sur des maquettes grandeur réelle les mêmes tâches qu'on sera amené à faire dans l'espace.
Voilà pour Thomas Pesquet. Et en bref, Antoine, on reste dans l'espace un peu plus loin. 5000 trous noirs photographiés en un seul cliché.
Oui, et on doit cette image au télescope Chandra, un télescope à rayons X de la NASA, qui a été braqué pendant une semaine et demie sur une infime partie circulaire du ciel, représentant l'équivalent de 2/3 de la pleine Lune. On rappelle bien sûr que les trous noirs ne sont pas observables directement, mais le télescope Chandra, lui, peut détecter la matière et les gaz surchauffés qui sont happés par ces trous noirs en émettant un rayonnement X très intense. Sur l'image qu'on va mettre sur Twitter, on peut donc estimer que 70% des points lumineux sont des trous noirs et qu'il y en a environ 5000. La masse de chacun des trous noirs représentés sur cette image varie entre 100 000 et 10 milliards de masses solaires, rien que ça. Chandra devrait à l'avenir observer de plus grandes parties du ciel, mais il faudra attendre la construction de télescopes plus puissants pour mieux comprendre le mécanisme de ces trous noirs.
Alors, il y en a un qu'on va mieux comprendre. Barack Obama serait-il un président scientifique ?
En tout cas, c'est la prestigieuse revue scientifique Science qui lui ouvre ses colonnes cette semaine et c'est le premier président américain à y publier. Il donnera les clés de la Maison Blanche à son successeur vendredi prochain et propose un testament sur l'énergie et le climat dans cet article, mais également une mise en garde contre le climato-scepticisme affirmé de Donald Trump. Barack Obama, il s'était déjà illustré en juillet en publiant un article dans le journal de l'Association médicale américaine dans lequel il défendait son CARE Act. Aujourd'hui, dans Science, il affirme que quoi que fasse Donald Trump, rien ne pourra stopper en Amérique la révolution en marche vers les énergies vertes. Et dans l'article, c'est l'argument économique qui est le plus utilisé par le président sortant pour défendre la lutte contre le changement climatique. À titre d'exemple, il rappelle que la diminution aux États-Unis de la part du carbone dans l'économie n'a pas empêché une hausse de 10% du PIB. Reste à savoir maintenant si les arguments avancés par Barack Obama atteindront Donald Trump et ses conseillers.
Et on passe au deuxième sujet du jour. Antoine, en France, l'épidémie de grippe, particulièrement sévère cette année, devrait atteindre son pic en début de semaine prochaine.
Et oui, mercredi, Santé publique France publiait son premier bulletin hebdomadaire. On pouvait y lire notamment que le nombre de personnes qui ont consulté leur médecin pour des symptômes grippaux a continué d'augmenter la semaine dernière, atteignant 395 pour 100 000 habitants contre 326 la semaine précédente. Même si le pic devrait être atteint la semaine prochaine, l'épidémie actuelle est déjà l'une des plus virulentes de ces dernières années. Pourquoi, alors qu'elle ne touche pas plus de monde que d'habitude, cette épidémie est-elle plus intense ? Écoutez Daniel Lévy-Brul, qui est responsable de l'unité infection respiratoire et vaccination à Santé publique France.
Il existe en gros trois types de virus qui sont responsables des épidémies de grippe, les virus de type A, les virus de type B, et parmi les types A, on a deux grandes sous-familles, les H3N2 et les H1N1. Donc cette année, c'est en tout cas jusqu'à présent, quasi exclusivement du virus H3N2. Ce virus H3N2, il est connu pour sa capacité à provoquer des formes graves chez les sujets qu'on appelle à risque, c'est-à-dire les sujets qui ont un facteur de fragilité. En fait, ce sont essentiellement deux catégories de population. D'une part, les personnes âgées et puis les sujets, quel que soit leur âge, qui présentent des maladies chroniques, et en particulier des maladies du poumon, des maladies du cœur, un diabète ou toute maladie qui entraîne un défaut de fonctionnement du système immunitaire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'a priori, le nombre de cas de grippe devrait être tout à fait dans ce qu'on observe habituellement. C'est pas une épidémie qui se caractérise par un nombre de personnes atteinte plus grand que d'habitude. Ce qui la caractérise, c'est la proportion parmi les cas de ceux qui ont des formes sévères qui justifient une hospitalisation. Les épidémies de grippe, même au stade où on en est, restent imprévisibles. Il arrive parfois qu'une première épidémie de grippe liée à un virus soit suivie par une deuxième petite épidémie liée à un autre virus. Donc voilà, on est encore dans l'incertitude et les virus grippaux sont bien malins et tout à fait imprévisibles.
Épidémie imprévisible, mais justement, il le disait, les effets auraient pu être moins graves avec plus de vaccinations.
Oui, c'est en tout cas l'avis de la ministre de la Santé, Marisol Touraine, qui affirmait hier que les patients et les soignants ne se vaccinent pas assez. Cette sortie n'a pas manqué de faire réagir certains membres du personnel hospitalier qui ont été confrontés ces derniers jours à la saturation de leurs services à cause de l'épidémie de grippe. Ce vaccin dont parlait la ministre de la Santé reste-t-il le moyen le plus sûr d'éviter une épidémie de cette ampleur? Écoutez à nouveau Daniel Lévy-Brulle de Santé publique France.
Le vaccin dont on dispose contre la grippe n'assure pas une protection totale chez les sujets vaccinés. Il marche donc de manière tout à fait satisfaisante, en particulier chez les sujets jeunes et en bonne santé, mais chez les sujets les plus fragiles, et ceux sur lesquels, bien entendu, on aurait aimé le plus que le vaccin soit efficace, l'efficacité est loin d'être parfaite. Néanmoins, on a estimé l'efficacité de la vaccination contre la grippe des sujets âgés dans un travail récent à environ 35%, c'est-à-dire que déjà à titre individuel, et c'est vrai bien sûr au niveau collectif, une personne vaccinée voit son risque de mourir de la grippe réduit de 35%. Et si on transforme cette affirmation dans une perspective collective, nous avons estimé que cela correspondait en moyenne à 2000 décès liés à la grippe évités chaque année. On est au pic, donc on est en gros, disons, à la moitié de l'épidémie. Il faut rajouter à ceci le fait que le vaccin n'est pas efficace le jour même de l'administration. Il faut 10 à 15 jours pour que le vaccin protège. Donc, une personne qui se vaccinerait aujourd'hui aurait une protection pour la fin de l'épidémie. Mais il faut que cette personne sache qu'elle ne sera pas protégée tout de suite et que la prochaine fois, il vaut mieux se protéger plus tôt dans la saison pour se protéger pendant toute la durée de l'épidémie.
Ah, les épidémies, et justement, épidémie Antoine, les zombies éradiqueraient l'espèce humaine en 100 jours.
Oui, ce qu'on ne savait pas, c'est qu'ils pourraient venir à bout de l'humanité en une centaine de jours seulement. Donc, on doit cette affirmation à des étudiants de l'université de Leicester au Royaume-Uni qui se sont basés sur un modèle mathématique utilisé pour étudier la propagation des épidémies. Pour parvenir à ce résultat, ils sont partis d'un seul humain infecté et ont ensuite estimé que chaque zombie pourrait survivre 20 jours avec 90% de chances d'infecter un autre humain chaque jour. En seulement 20 jours, la planète se trouverait donc en situation de pandémie et après une centaine de jours, seulement 181 êtres humains seraient encore vivants. La bonne nouvelle, parce qu'il en faut une, c'est que chaque être humain survivant aurait 10% de chances de tuer un zombie par jour, ce qui nous permettrait de sortir de ce mauvais pas en, devinez, en 27 ans. Ah. Voilà, nous voilà rassurés.
27 ans. Merci Antoine.
La méthode scientifique. Xavier Martinet.
Et on retrouve en plateau nos invités Jean-Claude Mézières, Christophe Quillien et Hervé Cottin. Peut-être quelques réactions ou commentaires sur des sujets qui vous ont intéressé dans ce journal Les Zombies, Thomas Pesquet, peut-être avec ce fameux scooter spatial, alors qu'on utilisait un fauteuil, Jean-Claude Mézières, auparavant.
Je ne suis pas spécialiste de la technique de comment évoluer dans le cosmos, mais on m'a remporté au moment où il partait, là, il y a un mois, à peu près, que c'était un lecteur de Valérian et que c'est grâce à Valérian, quand il était petit, lui aussi, qu'il est devenu astronaute.
Où nous mènent les longues après-midi passées.
Je dis, on m'a reporté. Hein, je dis pas que c'est le Tom Pesquet qui me l'a écrit. C'est pas vrai. Mais en tout cas, non, c'est formidable de vivre ça et de se dire, mais moi, ça fait 50 ans que j'ai dessiné ça sans aucun problème, avec le fait que, évidemment, dans la science-fiction, ce qui m'intéresse, moi, c'est pas la science, c'est la fiction. Et évidemment, pour dessiner une bande dessinée qui est donc un amusement, un plaisir. Plus on a l'air sérieux, c'est bien, mais pas trop quand même.
Christophe Killien ou Hervé Cotin, Christophe Killien.
Oui, je crois qu'il y a des scooters d'ailleurs dans un des albums de Valérian, Jean-Claude.
Oui, si mais c'est pour livrer des poutzoufs.
Ah bien, c'est important.
Ça, c'est une grande création de Pierre Christin, le scénariste, qui n'a malheureusement pas pu venir aujourd'hui. Mais c'est un livreur de poutzouf. Et donc, la ressemblance avec le scooter de Thomas Pesquet est peut-être très relative.
Hervé Cotin.
Bah, comme on parle d'espace aujourd'hui, je vais rester effectivement avec Thomas Pesquet. Je pense qu'il est vraiment stupéfiant, c'est qu'on peut suivre en fait en direct les deux astronautes là qui sont actuellement à l'extérieur de la Station Spatiale Internationale. Ils ont, comme on le disait, des caméras et on peut les voir. Il y a des caméras aussi sur la Station Spatiale et donc si les auditeurs ont un petit peu de temps, ça peut valoir le coup d'aller se brancher quelques minutes, un petit quart d'heure pour pas pendant l'émission bien sûr, mais de voir et de voir que tout en fait est contrôlé. Tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu, il y avait quelqu'un qui disait attention, le pied de Thomas Pesquet, il est pas très loin d'un des radiateurs qui évacue la chaleur de la station, et donc il y a une infinité de précautions qui est prise et on peut le suivre en direct, et ça c'est assez stupéfiant de voir ça.
Et c'est vrai que pour nous c'est très spectaculaire et que c'est extrêmement contrôlé comme vous dites.
Coordonnées temporelles 21 juin 3428 à 17h36. Planète Carmap 4, votre mission sera d'établir un relevé minéralogique complet.
Nous allons effectuer un voyage dans le futur ? À vos ordres, amiral ! Coordonnées enregistrées. 21 juin 3428. Sphère temporelle activée, en route pour Carmap 4.
Et voilà le voyage spatio-temporel. Donc nous avons choisi un extrait d'une série animée pour illustrer cette introduction à Valérian, série qui n'a rien à voir avec la série bande dessinée. On est en 2720 sur la Terre, au début de la bande dessinée. Elle n'est plus habitée depuis longtemps. Son histoire même est méconnue jusqu'au 24e siècle. On est donc littéralement coupé ou sorti de l'histoire. Et il ne reste plus que la ressource du voyage dans le temps et de la science. On suit donc les aventures de Valérian et Laureline, agents spatio-temporels censés empêcher ce qu'on pourrait appeler les ratés de l'espace-temps. Cette série de bande dessinée, 22 albums jusqu'à aujourd'hui, un film qui va sortir, une source d'inspiration pour la fiction, elle-même au centre d'influences assez nombreuses, et avec une ligne originale qu'on pourrait définir comme ligne de l'ambivalence, jusqu'au dessin en tout cas. C'était justement Christin qui le disait, jamais tout à fait à la mode ce dessin, jamais chic, jamais tout à fait légitime, mais jamais non plus oublié, jamais détesté, et finalement jamais dépassé. Le dessin mésiresque dans son immense modestie se trouve au cœur même de ce qu'est la bande dessinée des années 80. Une bande dessinée où, j'ajoute, le matériel technologique sert, on pourrait dire, de sorte d'exacerbateur de l'univers connu. Il s'agit en gros de le faire exagérer, presque délirer, disait Deleuze. On va voir ça avec Jean-Claude Merzière, Hervé Cotin et Christophe Killien. Peut-être un point sur les origines de cette bande dessinée. On a parlé beaucoup et on voit beaucoup d'articles sur l'influence de la culture américaine sur cette bande dessinée. Jean-Claude Mézières, vous-même, vous l'avez dit et répété, mais vous aviez fait un voyage avec Jean-Pierre Christin aux États-Unis, et c'est là que tout a un peu commencé. Voyage dans le désert, il y avait les questions raciales, les ogives nucléaires planquées dans le désert aussi.
Oui, enfin, disons que là, ce que vous faites est un résumé très compacté d'effectivement, moi j'ai fait un séjour d'un an et demi aux États-Unis, mais j'étais particulièrement intéressé par jouer au cow-boy, et j'ai travaillé dans des ranchs comme cow-boy, et ça a été une expérience extraordinaire, très loin de la réalité spatiale, mais très loin du quotidien américain classique, à part que, évidemment, j'ai aussi voyagé, été en Californie, voir ce qu'était la modernité de la côte ouest, mais tout ça, c'est une accumulation de choses. Notre intérêt à Pierre et à moi de la littérature de science-fiction remonte à bien avant, c'est-à-dire dans les années 50. On avait 15-20 ans, enfin, oui, 20 ans aussi. Et la littérature de science-fiction était un terreau extraordinairement riche, avec des grands, grands classiques qui sont en fait à peu près de cette époque-là, avant et après aussi, mais surtout qui était une influence parce que c'était une lecture qui était absolument pas ni conseillée par les radios ou les journaux, les bibliothèques n'en avaient pas, les parents détestaient, les lycées, les instituteurs, les enseignants détestaient la science-fiction, et dans les panels politiques, dès qu'il y en a un qui commençait à délirer un peu, on lui disait, mais monsieur, halte là, ça c'est Gottlieb qui avait magnifiquement dessiné ça dans Pilote, mais monsieur, nous sommes en pleine science-fiction de ce que vous dites. Voilà. Donc c'était une injure presque, mais la science-fiction.
Et c'est vrai qu'à l'époque, il y avait une science-fiction américaine qui commençait dans les années 40-50, beaucoup également. Cependant, c'est vrai que graphiquement aussi, et même dans le choix du scénario, notamment par le choix du voyage dans le temps, Valérian s'en détache d'une certaine manière. Le voyage dans le temps, je l'ai retrouvé une fois, je crois, en 1960, dans une bande dessinée. C'était une bande dessinée de Blake et Mortimer, Le piège diabolique. Mais Christophe Killien, à cette époque-là, c'était pas forcément l'enjeu des BD de science-fiction.
C'est vrai, il y avait assez peu de bandes dessinées de science-fiction en France à ce moment-là. Il y avait Les pionniers de l'espérance, par exemple, qui est devenu un grand classique, qui est apparu en 45 dans Vaillant, l'ancêtre de Pif, où il y avait une équipe d'astronautes venant de tous les pays. Mais c'était un des rares exemples de science-fiction. Quand Valérian démarre, finalement, les auteurs sont presque des précurseurs. Il y avait eu Les naufragés du temps, trois ans plus tôt,
une série de Forest et Gillon,
et Barbarella de Forest.
Mais il y avait peu de SF. Mais qui n'était pas vraiment dans le saut spatio-temporel. Ouais.
Avec une belle héroïne.
Et oui, qui rappelle Laureline par certains
mais
traits.
Mais la réputation de Barbarella, qui était quasiment inconnue au bataillon, ce n'est que à cause du film de Vadim avec Jane Fonda, qui a eu forcément son impact et qui a popularisé la bande dessinée, qui a pu apparaître au grand jour. Autrement, elle était bannie même par la censure gaulienne. On n'avait pas le droit d'exposer les couvertures de Barbarella dans les vitrines des journaux, des librairies.
Et puis j'ajoute que si également, je l'ai dit mais j'insiste, hein, si cette bande dessinée innove, c'est également par ce dessin, c'est vrai, et Jean-Pierre Christin ajoutait, c'est un dessin qui n'est pas surchargé comme Druyer à l'époque, qui avait fait par exemple l'album Salambo, où il y a des grandes pages effectivement quasiment baroques, ou alors qui n'est pas non plus pur, il dit, comme le dessin de Moebius qui avait fait cette fameuse série L'Incal.
Ces petits camarades-là sont arrivés après Valérian.
Et qui sont arrivés après, mais vous disiez, grâce à la dimension spatio-temporelle de la science-fiction, je peux casser tous les moules, raconter à chaque fois des histoires radicalement différentes, et justement casser tous les moules, casser les moules des formes vivantes également.
Oui, il y avait aussi mon petit combat personnel entre mon dessin qui était à la base extrêmement franquinesque, Spirou, Gaston de Franquin étaient mes icônes absolues en dessin, et le sont toujours d'ailleurs, mais il fallait que je trahisse le père pour arriver à raconter mes histoires, parce que c'est sûr que Valérian glissant sur une peau de banane dans l'astronef, ça ferait pas sérieux et ça serait pas passionnant.
C'était un peu moins spectaculaire et comme ressort dramatique, voilà, un peu
voilà,
moins adéquat.
Donc il fallait trouver un petit peu une étape différente, et c'est avec justement à cause de notre coordination entre Christin et moi que de transcrire lui ce qu'il avait très impressionné dans les grandes plongées des romans de science-fiction d'Asimov, etc., et de tas de gens. Et moi, c'était plutôt le fantastique de Jack Vance, des grands romanciers des années 50-60, et d'arriver à le raconter sur des histoires qui soient des histoires, un, tout public, puisque nous passions dans un journal Pilote qui n'était pas un journal adulte, c'était un journal pour les jeunes collégiens, et ce n'est que au fur et à mesure que les histoires ont été après replacées en album que le lectorat est devenu plus large et plus diversifié.
Oui, c'était le fameux journal des rubriques à braque, par exemple, de Gottlieb. Ouais. Alors, justement, vous dites tout public, on parle de ce dessin qu'on pourrait dire assez épuré en un sens, et en même temps, c'est vrai que Valérian ajoute, on pourrait pourrait dire quelque chose de très baroque. C'est cet univers extrêmement chargé en planètes et puis un immense bestiaire. Alors, est-ce que c'est du jamais vu jusque-là? Je sais pas. Pour les albums que j'ai relus, donc il y en a une bonne quinzaine, j'ai compté au moins 30 races qui sont nommées et dessinées précisément, au moins une vingtaine de planètes également qui sont nommées et dessinées précisément. Pour vous, qu'est-ce que ça a été cette rencontre avec Valérian et Hervé Cottin, justement? C'est un bestiaire incroyable tout de même.
Je pense que il y a effectivement une diversité qui est extraordinaire et qui est presque avant-gardiste, parce qu'au moment où Valérian a été dessiné, on connaissait les planètes du système solaire et il y avait encore, je pense, beaucoup de scientifiques qui pensaient qu'il n'y avait pas de planètes autour des autres étoiles. Depuis 1995, on a commencé à détecter ce qu'on appelle des exoplanètes. Donc c'est assez récent. On en est actuellement à un peu plus de 3000. Et c'est vrai que ce qui étonne, c'est la diversité. C'est-à-dire que la diversité des exoplanètes qu'on a découvert, on voit des choses qui sont très différentes du cas de notre système solaire. On détecte plutôt des grosses planètes parce qu'elles sont plus faciles à voir. On détecte des grosses planètes très chaudes, très près de leur étoile, alors que dans le système solaire, les grosses planètes sont plutôt au-delà. Et donc cet aller-retour entre ce qu'on connaît de notre système et de ce qu'on observe autour d'autres étoiles, ça aussi, ça nous amène à revisiter l'histoire de notre propre système solaire. Les similitudes, les différences, c'est la démarche scientifique, c'est-à-dire de regarder les différences et les similitudes et de construire quelque chose de, cette fois-ci, très rationnel, très rigoureux, mais qui est fascinant aussi parce que c'est étonnant, parce qu'on ne s'attendait pas à ça, et il y a une infinité de cas possibles. Et dans le monde de la science-fiction et dans Valérian, c'est ça, il y a déjà un foisonnement. Alors pour l'instant, on n'est pas capable de détecter des planètes, les petites planètes qui sont effectivement les planètes qui sont habitées dans la science-fiction par les extraterrestres avec un sol, des océans. Voilà, on tend vers ça parce que c'est ce qui se rapproche de nous. Après, la diversité des extraterrestres, on n'y est pas encore, parce que pour l'instant, la seule forme de vie qu'on connaît, c'est la vie sur la Terre. Mais on est maintenant à un stade où on a quand même maintenant une méthodologie, une démarche, un questionnement rationnel où on peut vraiment poser des jalons pour se dire, voilà, si on veut avoir une réponse à cette question, on pense qu'il faudrait procéder de cette manière.
Et on va reparler un peu plus précisément justement de la typologie, de l'aspect de ces créatures. Noirs espaces infinis de l'univers, soleil brûlant, éclairant des terres inconnues, combien de milliards de civilisations, combien de milliards d'êtres vivants pouvez-vous abriter? Ça, c'était au début de cette bande dessinée qui s'appelle L'Empire des Mille Planètes, qui vient assez vite dans la série Jean-Claude Mézières. Justement, à quoi est-ce que vous pensiez, puisqu'on ne connaissait pas les exoplanètes, avec Jean-Pierre Christin, avec Pierre Christin, pardon, lorsque vous vouliez dessiner ces créatures exotiques?
Eh bien, je dirais que c'est justement là où le combat reprend. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a au fond de mon encrier? Je regarde, c'est très noir. Et évidemment, c'est l'imagination. C'est ce qui est passionnant en tant que dessinateur, comme guillemets, artiste de la science-fiction, c'est d'imaginer des choses qu'on n'a jamais vues et de leur donner une logique. Encore plus à cause que c'est une bande dessinée et non pas un film ou une grande illustration, mais des dialogues, forcément, puisque toute une bande dessinée se repose sur les dialogues des personnages. Alors, c'est merveilleux de dire, et l'Orline rencontre, bute nez à nez avec un géant de 5 mètres de haut qui est bleu ou bleu rouge et qui vole ou qui vole pas, enfin bon, peu importe. Mais quelle gueule il va avoir? Et là, c'est là où, si je trouve mon inspiration, c'est plus rigolo. Il y a des fois, je sèche, je recommence, je décide de changer le personnage parce que c'est pas comme ça. Ou je le réduis aussi. Des fois, on part peut-être sur un délire un peu plus fort. Et puis, dans une case, si ce n'est qu'une espèce d'entité gazeuse qui est à 5 mètres de haut, je vais pas dessiner grand chose dans ma case et l'Orline, elle va rien voir. Donc, il y a tout un calcul de dire, mon lecteur doit suivre l'action de ce qui se passe et éventuellement d'un échange qui peut des fois très humoristique et on l'a fait bien des fois. Et en même temps, garder une force novatrice qui ne se trouve pas très facilement dans un atlas ou dans un dictionnaire.
Donc on pourrait dire ces deux choses, c'est à la fois l'être défini nominalement par Pierre Christin et par vous dans la discussion, et en même temps cet effet qu'il doit produire sur le lecteur.
Exactement.
Et sur le personnage.
Et c'est là où il y a, c'est pour ça que ça me prend 2 ans de faire un album, alors que tout le monde me dit, oui, bah, en 6 mois, un album, ça se torche. Oui, si on dessine des cow-boys, si on dessine des bagnoles de course, si on dessine des flics et des
taxis.
Beaucoup
de fumée derrière, pas de décor.
Bon. Et alors que là, bon, je me bats. Pas trop mal, doucement. Et alors, justement, on parlait de tout ce répertoire de personnages, et c'est sûr que on vient de remettre à jour notre atlas des habitants du ciel, des habitants du ciel, l'atlas galactique ou intergalactique de Valérian et Laureline. Et là, Pierre a hiérarchisé, mis en catégorie extrêmement soigneusement, comme dans les beaux livres sérieux,
d'entomologie,
toutes les conneries qu'on peut raconter sur nos personnages, et leur donnant des justifications à chaque fois de leur population, de leur prestance, de leur squelette, de leur réaction. Et ça, c'est très amusant d'être extrêmement pointilleux sur des délires absolus, mais en même temps très documentés.
Et précisément, ouais, je le disais, un univers qui peut paraître loufoque en apparence, mais vous l'avez dit, qui est structuré, qui a une logique, qui a une cohérence forte entre les habitants, leur planète, leur univers. Très globalement, si j'essaye de résumer cet univers dans la série, on a presque 3 univers, l'ensemble des 1000 planètes ou plus qui font partie de la galaxie, voire plus, jusqu'à Cassiopée. On a la Terre, qui reste un peu une énigme tout au long de la série. Et puis on a ce fameux point central. Point central, il faut en dire un mot, parce que c'est presque un laboratoire de ce que vous racontez. C'est l'agrégat universel où toutes les races cohabitent. Au début, une station internationale, un peu. Finalement, tout le monde est venu s'agréger. C'est même un agrégat composite. On trouve des morceaux de Terre, pas seulement des vaisseaux.
C'est une espèce d'ONU de l'espace.
C'est ça.
Disons que toutes les planètes viennent si consulter normalement pour non pas un univers de guerre, d'explosion et de castagne complète, mais au contraire de cohabitation, avec des problèmes que, effectivement, les gens étant très différents les uns des autres, ils peuvent avoir des intérêts raisonnables de leur côté et complètement opposés aux autres. Tout ça donne, disons, des affrontements peut-être assez proche de notre quotidien, tout en étant un miroir extrêmement déformant sur des mondes, et alors selon l'âge du lecteur, où il pouffe de rire parce que c'est des personnages ridicules, etc., ou au contraire, il y a une réflexion philosophique ou politique en sous-teinte, hein, bien sûr. Qui est derrière tout ça.
Justement, Christophe Killien, ce point central, il apparaît, je crois, 2 fois de manière très importante dans la bande dessinée. D'abord dans l'Ambassadeur des Ombres, et puis après, j'ai oublié, je ne sais pas si c'est dans les Cercles du Pouvoir ou...
C'est dans Par des Temps Incertains, me semble-t-il.
Peut-être Par des Temps Incertains, où on voit effectivement Valérian et Laureline traverser l'ensemble de cet espace, ou ce qu'on peut en connaître, et les créatures. Alors, une sorte d'ONU, en fait, de la galaxie, mais un ONU qui fonctionne pas, finalement, qui est mangé par un tas de phénomènes parasites, on pourrait
dire. Oui, exactement, une sorte de ville-monde. Et ce qui est intéressant, je trouve, dans Point Central, ça reflète bien l'esprit des auteurs de la série, c'est que la Terre n'est qu'une planète parmi d'autres. C'est-à-dire qu'il y avait la volonté de ne pas raconter l'histoire seulement du point de vue de la Terre et des Terriens, mais de faire de la Terre presque une sorte de banlieue de l'espace, c'est-à-dire d'avoir un point de vue beaucoup plus élargi et beaucoup plus tourné vers les autres. Ce qui est tout à fait dans l'esprit de la série. Vous parliez de diversité tout à l'heure. C'est vrai qu'elle est aussi à prendre au sens politique, entre guillemets. C'est-à-dire que les auteurs ont toujours mis en avant l'idée de diversité des peuples, des espèces, des religions, des croyances, etc. Sans que la Terre et les Terriens, par exemple, jouent le beau rôle. Bien au contraire, parce que souvent les Terriens sont quand même présentés de manière assez critique et assez négative. Et je crois que ça, c'est une des grandes originalités de la série.
Tout à fait. Si on peut reparler des Terriens vers la fin de l'émission, on va en dire un mot. Juste pour terminer sur ce point central, Hervé Cottin, je vais citer quelques espèces. Par exemple, on voit les marmacas tout au début qui sont radioactifs, très psychologues. Ce sont des sortes de singes décharnés à tête de fourmi, des longues antennes à ampoule transparente. On va les retrouver, je crois, dans le film de Luc Besson.
Les a vus passer dans la bande-annonce.
Voilà, dans la bande-annonce.
Déjà.
Au hasard encore, des Zols, par exemple, qui sont, eux, un peu humanoïdes, avec des oreilles pointues. Ils sont bleus, à taches blanches sur le crâne. Une peuplade dont la planète a éclaté. Au début, pas très important, mais ils vont jouer un rôle quand même très important. Ou alors des Camouniques, qui sont des sortes de centaures. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce premier bestiaire de
point? Alors, dans les faits, on n'en a pas encore trouvé. Hein. On n'est ni sur Mars, ni ailleurs. Mais,
ni dans l'Atlantique.
Mais en fait, quand on réfléchit à la possibilité que la vie ait pu apparaître ailleurs, eh ben, le point central, là, si je reprends la terminologie, ça va être la Terre. Parce que autant maintenant on a une diversité des planètes, mais la vie, pour l'instant, telle qu'on la connaît, elle est unique. Elle est unique sur la Terre, mais ce qui est fascinant, c'est quand même de constater que une fois qu'elle est apparue, dans des conditions qui pour l'instant nous échappent, sur lesquelles on élabore des scénarios, mais une fois qu'elle est apparue, elle a la capacité de se développer et de coloniser quasiment tous les environnements qui sont à sa disposition sur la Terre. Et ce qui est vraiment étonnant depuis une trentaine d'années, ça va être c'est vraiment tout le travail des microbiologistes. Parce qu'on imagine souvent, quand on pense aux extraterrestres, on pense à des créatures qui peuvent être des interlocuteurs, des vis-à-vis. Mais sur la Terre, on n'a pas vraiment d'interlocuteur direct à l'espèce humaine. Et la diversité du vivant, elle s'exprime essentiellement sous la forme microscopique, avec des bactéries qui sont capables de résister à des températures qui sont considérables au fond des océans, à plus de 100 degrés, dans des régions extrêmement acides. Et c'est pas que, j'ai dit résister, c'est pas forcément le bon terme, mais c'est qu'ils sont bien. C'est-à-dire que nous, on est adapté à voilà, on n'est pas très content s'il fait 5 degrés dehors. Il y a des bactéries qui vont ne pas pouvoir vivre à 20 degrés parce que elles sont bien à 80 ou dans un bain acide extrêmement fort. Donc une fois que la vie est apparue, et là ça reste quand même quelque chose de mystérieux, elle a la capacité de se développer, de se propager et de coloniser en fait toutes les niches qui existe. Et c'est pour ça que ce qui existe sur Terre. C'est pour ça qu'après, on se projette sur Mars, où il y a une planète maintenant qui est devenue très aride, mais qui était peut-être un peu plus hospitalière dans une certaine mesure, dans ses premières époques, les premiers âges qui étaient les âges au cours desquels la vie est apparue sur la Terre. Et on se dit, si, avec un grand si, bien sûr, la vie est aussi apparue sur Mars, pourquoi pas? Est-ce qu'elle n'aurait pas pu s'adapter et continuer dans des niches un petit peu voilà compliquées à atteindre à subsister ou au fond d'océans sous des couches de glace de satellites glacés ou dans des mondes autour d'autres planètes, autour d'autres étoiles pardon, qui ont des conditions qui sont assez dissemblables de celles de la Terre. Donc le point central quand même en exobiologie, ça reste la Terre et la capacité du vivant qu'on connaît à se diversifier et à s'adapter à des conditions qui sont très, très étonnantes.
Alors que là, précisément, cette Terre a été rendue stérile. Justement, les espèces ont un rapport un peu différent entre elles à la colonisation. Certaines ont une colonisation assez stratégique, assez mesurée. On pourra en reparler, Jean-Claude Mézières. Juste sur les bactéries, effectivement, bactéries, virus, c'est vrai que c'est la forme de vie que les scientifiques s'attendent le plus à voir aujourd'hui, peut-être dans l'univers. Je crois qu'il n'y en a pas de représenté. Cependant, il y a quand même un virus qui prend de l'importance au fil des albums.
Alors oui,
et des maladies.
Il y a eu, alors toute une série, là je parle un petit peu cuisine, il y a eu toute une série de petits récits courts qui étaient dans les années 69-70, des petits récits de 15 pages pour un petit périodique qui s'appelait Pocket Pilot, et on faisait des récits courts de Valérien Lorline, et je me suis coltiné un scénario de Pierre où sur une planète inconnue, je ne sais plus comment ça se passait, Valérian tombait dans une espèce de puits, puis Lorline allait le chercher, etc. Mais j'avais fait un montage, et donc mon dessin était des cellules, des bactéries, des choses comme ça, dont j'avais trouvé un livre de macrophoto énorme, et j'avais fait des photocopies de ça, et je les avais mis en fond de terrain, et donc mes personnages passent en scaphandre au milieu des bactéries, et j'ai revu le livre, qu'il va falloir qu'on le réédite parce qu'il est un peu oublié celui-là, et il y avait des choses assez réussies, parce que c'était alors là, complètement une espèce de rêve évidemment cauchemardesque, mais en même temps partant de vrais photos dont les spécialistes me diront « Oh oui, mais maintenant, on a tout compris de ça. » Alors que ça, quand j'ai acheté le bouquin vers 1970 dans une librairie de près de la de l'Institut agronomique à Paris, ah oui. J'avais trouvé les documents farmaceutiques parce que c'était des formes de comme des pas des étoiles de mer, mais enfin des choses comme ça, des trucs très incertains, et ça convenait parfaitement bien à un décor, justement en mettant mes petits personnages à l'intérieur de ça.
La méthode scientifique, Xavier Martinet.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des
clip, crack,
des,
bang,
des,
bang,
et des...
Zip, shibam, pow, blop, whew.
Je distribue les swings et les uppercuts, ça fait,
vlam,
ça fait,
splash,
et ça fait,
stop,
ou bien,
bang,
ou, parfois même...
Zip, shibam, pow.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
blanc,
et des
zip, shabam, pow, blanc, whew.
Viens avec moi par-dessus le building, ça fait
whip,
quand on s'envole et puis
cling,
après quoi je fais
tilt,
et ça fait
boing, shabam.
C'était Comic Strip, la bien nommée de Serge Gainsbourg, bien sûr, et Brigitte Bardot. Celui-ci enregistré à Londres en 1960, année de la parution des Mauvais Rêves, le premier album de Valérian. Justement, des clings, des bangs, des pofs, il y en a toujours dans la bande dessinée Valérian, des onomatopées, des langues étrangères aussi, du russe, de l'arabe et quelques langues étranges, dont une qui ressemble à du sanskrit. Ça vous intéressait aussi de pouvoir retranscrire visuellement des langages extraterrestres, Jean-Paul
Mézières? Oui, alors... C'est un drôle de problème parce que, en même temps, comme ça ne veut pas dire grand-chose dans le texte lui-même, je ne vais pas faire des énormes ballons de très beaux dessins calligraphiés. Mais par contre, c'est amusant de confronter, encore une fois, un dialogue français, en français des personnages, et une réponse dans une langue évidemment très différente. Ça se limite à un petit jeu de scène assez amusant, mais écrire, justement, représenter, c'est ça aussi qui est passionnant dans la science-fiction, c'est représenter et donner du corps, du réalisme à des personnages, des bruits, des sons, des attitudes qui sont pas explicites. Il y a eu un autre truc, à un moment, on a fait les glapumptiens sont des espèces de grandes méduses qui sont très beaux, très intelligents, très intelligents, magnifiques, et qui sont d'une puissance de création intellectuelle formidable. Et il y a eu un moment dans un petit épisode, toujours dans la fameuse Habitant du ciel, dans l'Atlas, une bataille entre les glapumptiens et une autre race comme ça, et c'est un combat numérique, mais numérique de chiffres. Alors comment je peux traduire ça? Moi, je me suis posé, c'était au début de l'ordinateur et des chiffres qu'on pouvait composer, des lettres qu'on pouvait façonner, et donc là j'ai eu beaucoup d'aide, heureusement, par des gens qui savaient manier, ce que je ne sais pas manier du tout, c'est les ordinateurs, et en fait de faire un combat numérique avec tout simplement des échanges de tirs de chiffres. Et les glapumptiens gagnent.
Et d'ailleurs, si je me souviens bien, en plus, les batailles de chiffres ou les jeux mathématiques, c'était un des passe-temps et un des loisirs de Valérian et Laureline dans les deux premiers albums.
Tout début, oui. Là aussi, on a été très très vite. C'était le jeu d'échecs en trois dimensions.
Tout à fait. Justement, pour poursuivre un peu sur les races et la manière dont vous les dessinez, si on les regarde toutes, je ne vais pas toutes les décrire, mais on voit que vous procédez un peu à la fois par reproduction, agrandissement d'espèces, on pourrait dire connues, décollage de diverses caractéristiques aussi, de l'insecte sur du mammifère. On peut voir aussi des yeux de grenouille, par exemple, sur une tête de chèvre, un personnage qui a une petite queue de crotale, que sais-je encore. Hervé Cottin, est-ce que, puisqu'on parlait de la possibilité de trouver des bactéries dans l'espace, est-ce que il y a une chance qu'on puisse découvrir des sortes d'animaux également, et sous quelles conditions, et serait-il aussi, disons, chimérique? Est-ce qu'on peut s'attendre à avoir des collages d'animaux connus? Question un peu idiote, mais sous quelles conditions?
C'est une question qu'effectivement on m'a déjà posée, et puis même que je me pose, à quoi pourraient ressembler des extraterrestres. Alors souvent je retourne cette question en disant, déjà, regardez la diversité du vivant. C'est-à-dire que là, effectivement, on dit, bon, ça ressemble à une crevette. Mais si vous aviez jamais vu de crevette, et si vous étiez dans une aventure spatiale et que pour la première fois vous étiez confronté à une crevette, vous diriez mais d'où est-ce que ça sort cette bestiole? Ou alors il suffit d'aller parcourir les travées de la galerie de l'évolution, ou moi ça m'est déjà arrivé, une fois j'étais resté en admiration devant des planches avec des insectes. Alors c'est pratique parce qu'il peut, alors c'est cruel pour eux parce qu'ils sont punaisés sur une planche, mais si vous regardez déjà la diversité, l'esthétisme, les couleurs des formes qu'a su adopter le vivant sur Terre, c'est clair que si un jour on est dans la capacité de rencontrer une forme de vie extraterrestre, on sera forcément à un moment surpris par des analogies qu'on pourrait tirer de ce qu'on connaît et qui seront forcément riches en enseignements. Peut-être des processus qui permettent l'émergence de la vie, peut-être qu'on comprendra vraiment comment la vie apparaît une fois, si un jour on y arrive, qu'on aura à se mettre un autre cas sous la dent. Je pense qu'il faut s'attendre à tout, et moi, comme je suis chimiste aussi à la base, ce qui va m'intéresser, ça va pas être seulement à quoi ça ressemble.
Pas les assemblages morphologiques uniquement.
Mais ça va être qu'est-ce qu'il y a à la base? Est-ce que c'est basé sur des protéines un peu comme nous? Est-ce que c'est de l'ADN, de l'ARN? Est-ce que c'est basé sur du carbone et de l'eau à l'état liquide? C'est ça qui, alors, je pense, sera le plus riche en enseignement, plus que de se dire ah tiens il a l'air méchant, ou il fait peur, ou il est beau. Enfin,
c'est, et là-dessus, ouais, il y a quelques informations justement de mémoire. Il y a par exemple les fameux fauves mange-matière qui vivent dans l'espace, ou les chiens de l'espace qui vivent dans l'espace également, ou même un personnage qui mange de tout ce qui est pierreux ou du béton, en fait. Est-ce qu'on verrait, selon vous, une possibilité d'un personnage qui mangerait du béton? Récemment, je me souviens, on a réussi à inventer des formes de vie à base de chaînes de silicium.
Alors, c'est pas exact. On peut pas dire vraiment que ce soit vivant. Disons que, pour l'instant, je disais tout à l'heure qu'on avait justement maintenant un moyen de se projeter dans le futur, une méthodologie, des questions. Mais c'est vrai que ce qu'on est capable de faire pour l'instant, c'est d'envisager de détecter des choses qui éventuellement peut-être finirait par nous ressembler, ressembler, c'est-à-dire plutôt carbone et eau à l'état liquide. Des choses complètement différentes, basées sur d'autres éléments, qui auraient d'autres propriétés, est-ce qu'on serait capable de les voir, à part effectivement si un jour il y a une soucoupe volante et on voit sortir un extraterrestre qui va prendre un caillou et le manger, là on se dira, oui, probablement c'est pas du carbone qui constitue son métabolisme. Mais dans cette recherche, qui est une recherche qui sera sans doute très difficile, hormis les vêtements qui est souvent véhiculé dans la science-fiction, une arrivée, un contact, mais cette recherche qui est souvent indirecte, de vie passée ou de vie très loin autour d'autres étoiles, c'est pas par le contact, mais ça va être plutôt par les traces que peuvent laisser ces organismes vivants dans leur atmosphère. C'est-à-dire l'atmosphère de la Terre, elle a une composition qui est lié à la vie sur elle, à sa surface. Donc un jour, peut-être, on détectera une exoplanète avec une composition et on se dira, non, chimiquement, c'est pas possible autrement que par le fait qu'il y ait de la vie dessus.
Il faut faire de la détection indirecte, souvent.
Et on saura pas s'il y a de la vie, à quoi elle ressemble. avant d'y aller. Mais là, on se projette à des échelles de temps qui sont hors de notre portée.
Puisqu'on ne sait pas ce qu'on cherche, effectivement, en tout cas dans la série Valérian, on voit bien ce qu'il y a et ce qu'on cherche. Si j'essaye de faire une typologie, Christophe Killien, des races qu'on trouve, il y a beaucoup d'humanoïdes, des hybrides également organiques-machines, un peu moins, mais il y en a quand même, beaucoup de dérivés animaliers du type chimérique que j'ai cité, et des composés organiques qui n'ont pas de forme solide, qui ressemblent un peu à cette vision de la bactérie que vous aviez, Jean-Claude Mézières, parfois des purs parapsychos, des purs esprits créateurs de matière, des transformistes également, et ces fameuses choses énergétiques qu'on trouve dans le métro Châtelet notamment, des êtres très, très dangereux, bourrés d'énergie, voilà.
Sans oublier les espions chingouzes.
Ah oui, et justement, et les races récurrentes, on pourra dire un mot. Alors précisément, Christophe Killien, qu'est-ce que vous pouvez en déduire, vous, de cette typologie de races, justement, majorité d'humanoïdes, quelques races récurrentes qui ont une fonction particulière, et puis ces grands êtres énergétiques, si on veut résumer.
Oui, effectivement, c'est d'une grande richesse. Qu'il faut dire d'abord, il faut rendre hommage au dessinateur, parce que souvent le scénariste avait le beau rôle, c'est-à-dire qu'il se contentait en quelques mots de donner quelques caractéristiques
pianiste, attendez.
Et après, c'était quand même au dessinateur de débrouiller, en plus à une époque où il y avait très peu de sources visuelles.
Mais je revendique mon plaisir. Mais simplement, ce qui est intéressant dans la marche d'un récit, c'est les réactions des personnages les uns entre les autres et la manière dont Pierre a écrit les dialogues des chingouzes, fous-culs, fauderches, vendant des informations aux plus offrants, etc. Puis il y en a un qui tombe amoureux de Laureline, parce qu'évidemment tout le monde tombe amoureux de Laureline. Et ça, c'est quand même très amusant. Et ce qui fait aussi que les personnages, en dehors de leur allure rigolote, caricaturale, physiquement, sont des esprits extrêmement sophistiqués qui calculent que s'il dit ça, il va dire le contraire, etc. etc. Et ça, c'est assez savoureux.
C'est sûrement une des plus belles créations.
Grandes entités monstrueuses et extraordinaires qui, une fois qu'on la dessine une fois, il est tout le temps comme ça. Et c'est encombrant dans le couloir du métro.
C'est un peu ça. Alors, lesquels vous intéressent le plus, vous, Christophe Killien? Si c'est pas les grands fauves mange-matière, effectivement, est-ce que c'est plutôt les êtres transformistes ou ces personnages récurrents qui sont des personnages, effectivement, qui ont une grande profondeur, comme les chingouzes?
Oui, c'est plutôt ce genre de création qui me semble plus intéressant. C'est amusant de constater, d'ailleurs, qu'ils n'étaient pas prévus pour revenir. Ils étaient censés jouer un rôle, à un moment donné, dans Point Central, enfin, dans l'ambassadeur des ombres, puisque c'est là qu'ils apparaissent. Et puis, les auteurs sont aperçus que ce serait vraiment dommage de se priver d'être aussi intéressant, avec une personnalité, une psychologie quand même assez bien travaillée. Mais il y en a d'autres, on parle des chingous, mais il y a aussi le transmuteur grognon de Blux, qui lui a la possibilité d'ingérer et de multiplier tout ce qu'il intègre, c'est-à-dire...
Une sorte de hérisson, en fait.
Oui, qui ressemble un peu à un hérisson, qui est toujours...
Un portefeuille.
Maussade.
un pot d'hérisson.
Bon, il y en a d'autres, il y a le tum-tum de lui. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est la beauté, la poésie des noms de toutes ces bestioles, finalement. Entre le barflug Guider, le tum-tum de lune, le spiglik de Bluxt.
Et il faut le souligner, effectivement, c'est presque des noms onomatopées, en fait, Jean-Claude Mézières.
Oui, enfin, ça, c'est
ou des noms poétiques.
La pure création de Pierre Christin, qui me dit, voilà ça, alors il est beau, il est pas beau, mais s'il me dit qu'il est beau, je suis pas obligé de le dessiner beau, d'ailleurs, si je lui trouve une autre gueule. Mais c'est surtout notre, disons, connivence qu'il y a sur, basé sur le scénario, de savoir que ce nouvel acteur, comment on va le prendre, est un peu comme un figurant, effectivement, qui est prévu pour un petit rôle, et le gars est formidable, et on va lui réécrire une scène, on va le refaire la suite avec son rôle beaucoup plus important, parce que il est magnifique, quoi, voilà. Et ça, je crois que un des plaisirs de Valérian, c'est que justement nos héros, qui sont beaux, gentils, mais qui n'ont pas une force pour... C'est pas eux qui drainent l'histoire, c'est leur environnement. Et à chaque fois, c'est justement leur réaction dans l'environnement, hostile ou pas hostile, etc., et montrant la complicité et les choses compliquées de la vie avec toutes ces bestioles extraterrestres.
Ouais, ils sont que de modestes agents spatio-temporels, voilà, après tout, voilà, Valérian. Voilà.
Eux ne sont que les agents, effectivement, seulement spatio-temporels et du service spatio-temporel, mais comme vous le dites, Jean-Claude Mézières, effectivement, il y a un lien qui est parfois très intime entre l'environnement, la planète, et puis la race qui l'habite pour le moment. Alors, on peut citer la planète Solum, une planète où les villes s'enfoncent dans le sable. Alors, du coup, ce sont des habitants presque termites qui reconstruisent sans cesse la planète. Il y a la planète Ouhuru également, d'où viennent les monstres mange-matière, une planète figée dans la féodalité, la planète spongieuse dépotoir, où les habitants du coup sont très laids, ils sont très stupides également. Vous avez tenu vraiment à faire tenir ensemble à la fois un environnement et une race.
Oui, ben, c'est-à-dire que mon dessin doit raconter beaucoup de choses. Et c'est là où c'est compliqué, parce que ce ne sont pas simplement des gros monstres verts et que on n'est plus dans les BD américaines avant, où les conquérants étaient en fait du western revisité, où les mecs tiraient et flinguaient tous les aliens les plus verts possibles, et qu'un bon alien était un alien mort. Donc là, on a beaucoup changé ces règles-là. Et ce qui fait qu'effectivement, on a encore du grain à moudre pour raconter encore quelques histoires.
Et là, un bon alien est un alien compagnon, justement. Hervé Cottin, qu'est-ce que vous voulez?
Je voulais rebondir, c'est-à-dire que la vie se développe par rapport à un environnement donné. Donc au final, c'est pas étonnant que les mondes qui sont imaginés soient ensuite aillent de pair avec les espèces qui se sont développées dessus.
Avec parfois un lien de détermination aussi prégnant. Par exemple, une planète qui s'enfonce dans le sable fera des habitants termites.
Ça, j'en sais rien, mais il y a forcément...
Petit problème pour le dessinateur.
La vie sur Terre s'adapte à son environnement. Nous, on commence à le façonner, mais la vie en général naît dans un environnement et s'adapte et évolue par rapport à son environnement.
Et dans Valérian, la vie s'adapte à la vie aussi. Pour terminer, on a parlé de ces personnages récurrents, les chingouzes par exemple, le schnarfeur qui crache sur des gens, en fait beaucoup d'animaux
dont la glande chabounal, si elle est ligaturée, devient le plus charmant des compagnons.
Exactement.
Et le plus poli des
et sinon le
des
plus grand producteur de crachats et puis d'injures également dans la bande dessinée. Mais on voit beaucoup d'exemples de symbiose également entre créatures. Il y a des créatures qui sont utilisées comme bijoux, comme structures, des scrums qui sont des mille pattes géants, des structures habitables, comme armes également. Il y en a beaucoup, on parle du schnarfer par exemple. Est-ce que ce genre de symbiose, c'est pas également, Hervé Cottin, un moyen de détecter de nouvelles formes de vie? Est-ce qu'on peut en rater des formes de vie qui vivent en symbiose?
En symbiose ou pas, c'est très probable qu'on puisse rater des choses, oui. Enfin, c'est comme on cherche pour l'instant, et je pense qu'il faut l'assumer et presque en être fier. C'est-à-dire, on cherche, comme on dit, là où il y a de la lumière. Mais parce qu'on n'est plus à un stade de chercher à tâtons. C'est-à-dire que maintenant, quand on va se poser sur Mars, dans les années 60, ou 70, on se posait sur Mars, là où en gros on pouvait se poser. Maintenant, on va vraiment cartographier la planète, on va regarder la minéralogie de la planète et on va se dire, il faut aller là. Et pour Curiosity, le robot de la NASA, ou pour la mission ExoMars de l'ESA, parfois on est sur des ellipses de quelques kilomètres où on se dit, si on loupe cet endroit, on perd toute chance d'avoir des informations valables. Donc effectivement, il y a de très fortes chances qu'on passe à côté de certaines choses, mais au moins on cherche plus à tâtons. Il faut l'assumer et c'est pour. Je pense que c'est ça en fait la méthode scientifique qu'on adapte, c'est voilà en contraignant un petit peu notre champ de recherche, en abandonnant peut-être des rêves, mais voilà en se disant dans cette direction avec ces hypothèses, dans ce contexte, on a peut-être des chances, peut-être de trouver quelque chose.
Et c'est pour ça que j'engage nos auditeurs à se rendre sur Point Central, lire tous les albums de Valérian s'ils l'ont pas encore fait. Merci beaucoup Jean-Claude Mézières, donc le dessinateur de la série Valérian. Hervé Cottin, merci. Astrochimiste à l'université de Créteil et Olisa, Christophe Killien, critique et auteur du futur abécédaire de Valérian, il paraîtra en juin. Merci aussi pour cette semaine à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, Antoine Beauchamp, Céline Lauzen, Noémie Naguet, Saint-Vulfranc, Eve Etienne, bien sûr, c'était Elisabeth Miro à la réalisation, Mathieu Lefrançois également qui nous aide pendant plusieurs mois, à la technique Anthony Thomasson, au droit d'auteur Sophie Salio-Marie. J'ajoute juste que lundi, vous retrouverez Nicolas Martin pour une émission sur l'ingénierie génomique.